OK, bien, bienvenue. C'est notre retour en classe pour les cours bibliques, les ateliers. Excusez-moi, je vais partir ma petite minuterie. On va ajuster un petit peu. Alors, vous êtes dans le cours « Croyez-vous vraiment? » qui est honnêtement vraiment basé sur le livre de Paul Tripp. Seulement disponible en anglais, Do You Believe, qui, on va voir ensemble, je fais l'introduction ce matin, mais qui nous parle à la fois de doctrine et de mise en application dans nos vies personnelles. Donc, je pense que c'est extrêmement pertinent dans une église qui cherche à faire des disciples qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la saine doctrine, ce que la Bible enseigne. Je trouve que c'est vraiment à propos de s'assurer qu'on comprend comment la doctrine s'applique dans la vie. Doctrine, le mot doctrine, c'est simplement des vérités. Donc, on résume des vérités bibliques à travers des grandes doctrines. Qui est Dieu? Qu'est-ce que la Trinité? Qui est le Père, le Fils, l'Esprit? La parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est inspirée de Dieu? La doctrine de l'inspiration des Écritures ou la doctrine des Écritures, comment Dieu parle à travers la Bible. Donc, ce sont toutes des vérités qui pourraient rester très, très, très théoriques. C'est ce qu'on va voir à travers ce cours-là pendant cette session. Et le cours va être donné par plusieurs des pasteurs de l'espoir, des pasteurs, pasteurs en formation. Ils ne vont pas tous donner une session cette session-ci ou un cours cette session-ci, mais plusieurs d'entre eux vont le donner. Comme je le mentionnais, les notes sont à l'arrière, elles sont disponibles. Si vous voulez recevoir chaque semaine les notes de cours, le lien vers le cours, vous suivez le cours en partie en présentiel, en partie virtuellement, vous pouvez vous rattraper parce que ce cours-là est disponible en vidéo, en audio. Les notes sont disponibles aussi. Donc, simplement vous assurer d'inscrire votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone à l'arrière, s'il vous plaît. C'est bon, on va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va faire l'introduction de ce cours. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole. Comme on va le voir tout à l'heure dans la prédication à travers Romains 1, Seigneur, nous avons besoin que tu te révèles à nous pour te connaître. Tu te révèles à nous à travers la nature, mais ce que tu révèles à travers la nature est très limité. Jamais on n'aurait pu découvrir, Seigneur, dans la nature, en observant les astres ou les arbres, ton amour tel qu'il a été manifesté en Jésus-Christ. Jamais, Seigneur, nous n'aurions pu discerner toutes les lois morales que tu nous donnes dans les 10 commandements, même si intuitivement, l'être humain sait bien qu'il ne doit pas tuer des hommes. Et pourtant, Seigneur, tu t'es révélé à nous à travers ta parole. Merci, Seigneur, pour tes Écritures qui nous instruisent non seulement sur qui tu es comme personne, mais sur ce que nous sommes et sur ce que nous sommes appelés à devenir. Et Seigneur, c'est notre prière, c'est ma prière que cet atelier nous aide comme Église à vivre plus près de ce que nous disons croire, plus près de notre profession de foi. Plus en accord, Seigneur, avec ce que, même des fois intellectuellement, on croit, et pourtant ça ne se traduit pas, ça ne s'actualise pas dans notre quotidien, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos sentiments, dans nos paroles. C'est notre prière, Seigneur, non seulement par souci d'intégrité, devant nos enfants, nos voisins, les gens qui sont témoins de cette vie que nous vivons devant eux, mais aussi, Seigneur, par désir d'être vraiment transformé à ton image, de vraiment être à ta ressemblance, Jésus. Alors, je te prie de venir nous visiter pendant cet atelier. Viens parler à nos cœurs, viens parler à notre intelligence, viens nous montrer nos incongruités et viens surtout, Seigneur, nous montrer comment ta parole vient nous réformer intérieurement. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, moi, je n'ai aucun souci si vous voulez poser des questions pendant le cours, d'accord? Juste lever la main. Soit qu'on aura un micro qui circule ou s'il n'y a pas de micro, je dois répéter la question. Donc, il n'y a pas de souci. En même temps, ne soyez pas offensés. C'est un moment où je décide de continuer, d'avancer, tout simplement parce que je suis tenu par le temps. Je veux couvrir toute la matière, d'accord? La semaine prochaine, on entre dans une première doctrine. Pourquoi ce cours? Bien, comme je l'ai dit, le cours s'appuie vraiment sur le livre de Paul Tripp. Paul Tripp est un enseignant hors pair et avec une particulière ou deux particularités, je m'excuse. Une grande centralité sur l'Évangile. Il croit vraiment que l'Évangile est non seulement une puissance pour entrer dans la vie chrétienne, mais une puissance pour nous faire vivre la vie chrétienne. Et donc, c'est dans la mesure où je comprends, j'apprécie, je crois, je m'approprie l'Évangile dans toute sa largesse que vraiment je vais grandir à l'image de Christ. Première particularité. Deuxième particularité de Paul Tripp, bien, il ressemble un peu aux puritains. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les puritains, qui étaient des évangéliques, des protestants, avant même qu'il y ait des catégories d'évangéliques, disons, là, mais c'était des protestants qu'on a trouvés en Angleterre, surtout, mais on en a quelques-uns en France et en Nouvelle-Angleterre. Et ces gens-là se sont appliqués à dire « la doctrine doit se traduire dans nos affections, nos désirs et dans notre quotidien ». Donc, ils avaient un énorme souci de poser des questions comme « si je sais, si je comprends la doctrine du péché, qu'est-ce que ça change dans mon expérience ?» Comment est-ce que ça m'instruit? Comment ça doit changer mes désirs, mes aspirations, mes appétits? Donc, il cherchait à rendre la doctrine très, très, très concrète. Une des belles illustrations de ça, c'est le petit livre de prière de Vision in the Valley, The Valley of Vision, The Valley of Vision, qui est en français aussi. On a déjà partagé beaucoup ça à l'Église. Mais ces prières-là sont riches doctrinalement. Et pourtant, elle parle d'un cœur qui adore, d'un cœur qui se repent, d'un cœur qui s'engage, d'un cœur qui est conscient de ses incongruités. Donc, Paul Tripp a ces deux caractéristiques-là qu'on trouve à peu près dans tout ce qu'il fait, très solide dans son enseignement, centré sur l'Évangile, mise en application de la doctrine. Puis, dans le fond, la question à laquelle on va répondre à travers tout le cours, c'est à quoi ressemble une vie réellement façonnée parce que nous disons croire. À quoi ressemble une vie qui vraiment exprime ce qu'on professe? Et là où ça se démarque peut-être, là où on voit le plus d'incongruité, c'est avec nos proches, avec la famille. Lorsque, je ne sais pas si dans la salle il y a un énorme écho, mais moi j'ai un gros écho de ma voix ici en avant. OK. Par exemple, Cette semaine, j'avais une semaine absolument énorme, pas catastrophique, juste très chargée, avec toutes sortes de choses où les gens, eux, vivent des fois des situations catastrophiques. Donc, quand tu vas t'asseoir avec eux, ben, tu veux connecter avec ce qu'ils sont en train de vivre, deuil, divorce, name it, OK, cette semaine. C'était ma semaine et c'était rempli de plein de décisions difficiles à prendre. Je me sentais très... très en paix avec Dieu là-dedans. Comme, OK, Seigneur, on baisse la tête puis on fonce. Dans 7 jours, c'est terminé. On va y arriver. Fait que j'avais l'impression d'être très cool. Puis une nuit, alors moi, je sais que je ne suis pas bien lorsque ma digestion ne fonctionne pas bien. Ça fait 25 ans, c'est terrible. Moi, la plus grande sanctification dans la transformation de mon corps dans l'éternité, c'est mon système digestif. Fait que... une nuit, la nuit, je pense, de mardi à mercredi, je me réveille à 2h du matin, ça va pas. Finalement, je reste 3h debout parce que la digestion ne fonctionne pas. Je m'en retourne me coucher à 3h30 du matin, je me relève à 7h pour continuer, pour attaquer ma journée, tout ça. Là, j'ai dit, ah, je pensais que j'étais cool, mais je pense que je ne suis pas finalement. Donc, mes émotions, je ne le sentais pas, mais là, ici, là, le stress, lui, était là vraiment, tu sais. Et est-ce que j'ai des ressources dans la foi pour pas nécessairement vivre ça aussi intensément? Clairement, la Bible me dit que oui. Ça ne veut pas dire que ça règle tout, ça ne veut pas dire que les chrétiens vivent jamais de stress, mais on sait quoi faire avec l'inquiétude, l'anxiété, le stress. Les Écritures nous enseignent sur ces questions-là. D'accord? Donc, c'est un exemple très personnel et très concret où je veux que ce que je dis croire, ce que je professe avec ma bouche, ce que je crois même intellectuellement, vienne se traduire même dans des choses comme ça, l'anxiété. Ça ne veut pas dire que ça va faire qu'on n'aura pas de cancer. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'anxiété, le stress, la digestion, ça, c'est lié à quelque chose qui se passe beaucoup ici, puis comment j'appréhende. Maintenant, des fois, c'est la surcharge de travail aussi qui peut venir avec ça. À quoi ressemble une vie réellement façonnée par ce que nous disons croire? La Bible ne nous a pas été donnée pour nous informer. La Bible nous a été donnée pour nous transformer. Et ça, c'est fondamental. Et un des pièges possibles lorsqu'on est dans une église qui est très, qui revient constamment à la grâce, hein? Vous l'entendez dans les messages, on travaille très, très fort à ne pas faire des petits religieux, des gens qui veulent faire le bien juste parce que, OK, un bon chrétien, ça agit comme ça. Et donc, on revient beaucoup à la grâce et certains vont comprendre de ça, bon, on est sauvé par grâce, donc ça suffit. Il n'y a pas de transformation attendue de la part de Dieu, ce qui est fondamentalement non biblique, d'accord? On est appelé à suivre Jésus-Christ, on est appelé à être transformé à son image, même de gloire en gloire, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, dans une église où on met un gros accent sur la grâce, on dit le moteur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est sa grâce, c'est ça le moteur qui nous pousse à passer à l'action, à se repentir, à chercher à changer. On pourrait entendre une fausse doctrine. Il y a même un nom pour cette fausse doctrine-là. On appelle ça l'antinominianisme. Ou des fois, en anglais, on va dire « hyper grace ». C'est une espèce de grâce à tout vent qui dit « t'es sauvé par grâce, Dieu n'attend même pas de changement en toi ». Ce qui est une fausse doctrine. Parce qu'on est appelé à être transformé. Les gens qui adoptent cette fausse doctrine-là sont très inconfortables avec tous les impératifs du Nouveau Testament. Mais il y en a des impératifs dans le Nouveau Testament. Il y en a une tonne. En fait, la vie du Nouveau Testament vraiment engagée est beaucoup plus exigeante que la vie de l'Ancien Testament. C'est presque pas biblique ce que je dis, là, mais dans un sens, ça l'est. Parce qu'il est attendu de nous que nous marchions dans la plénitude de l'Esprit. D'accord? Et donc, vous prenez des lois de l'Ancien Testament, puis là, Jésus dit, il vous a été dit, tu ne tueras point, mais moi, je vous dis que si tu haïs ton frère, tu viens de devenir un meurtrier. OK. Dans le fond, c'était la pensée de l'Ancien Testament. Mais là, Jésus l'explicite, puis il dit, et en plus, vous avez le Saint-Esprit, les amis. Donc, allez-y. D'accord? Donc, c'est important dans une église comme la nôtre, où on ne va pas reculer sur l'accent qu'on met sur l'Évangile, mais on pourrait se méprendre sur la compréhension de l'Évangile puis penser que l'Évangile, ça veut dire « tout va bien, tu n'as pas à changer ». L'Évangile ne dit pas ça du tout. L'Évangile dit que tu es sauvé par grâce. Maintenant, cette grâce-là est puissante pour te transformer aussi. Sans prétendre qu'on va atteindre la perfection avant d'aller rejoindre le Seigneur, on va continuer à broncher de différentes manières, comme le dit l'apôtre Paul, mais en même temps, on est appelé à chercher cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc, lorsque tu lis, admettons, la première lettre de Jean, bien, moi, je suis toujours bouleversé quand je lis un Jean. Je l'ai dit souvent à l'Église ici, j'ai l'impression quand je lis, il y a un moment là, quand je lis un Jean où je me dis, coudon, est-ce que je suis chrétien? Puis là, après ça, je continue dans Jean. Oui, OK, je suis chrétien, mais je n'ai pas le droit de niaiser avec le péché. Là. D'accord? Et cette lettre-là nous est donnée comme une espèce de test pour dire, est-ce que tu es sérieusement engagé quand même dans ta foi? Donc, on est appelé à poursuivre. L'Évangile, au contraire, nous pousse à poursuivre la sanctification parce que je sais que c'est par la puissance de Dieu et c'est seulement par sa grâce. Mais je veux y engager toute ma pensée. Ce cours-là vise à nous remettre en question en disant les doctrines qu'on enseigne ne sont pas théoriques en réalité, ne demeurent pas théoriques, elles ont des implications extrêmement concrètes dans la vie. Et donc, la manière que l'atelier est construit, c'est qu'à chaque semaine, vous allez voir, ça va aller un peu vite. Ce n'est pas un cours où vous allez étudier les 14 doctrines essentielles en profondeur, parce qu'on va passer la moitié de la leçon à revoir la doctrine. Et la moitié, donc 55 minutes, là, 25 minutes sur la doctrine, 25-30 minutes sur l'application. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien? Et préparez-vous parce que Dieu va vous remettre en question. Dieu va vous challenger à dire, regarde, tu dis ça, est-ce que tu t'entends? Tu viens juste de dire ça là, à tes enfants ou à un collègue, un ami, tu as rappelé une vérité de la Bible ou un frère, une sœur dans l'Église, mais est-ce que c'est conséquent? Est-ce que ça paraît dans ta vie? Et l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de partir sur un guilt trip à juste se sentir tous coupables. Dieu veut pas produire de la culpabilité en nous. Il veut produire un changement. Il veut produire de la transformation. C'est bon? La Bible ne nous a pas été donnée seulement pour nous informer, mais pour nous transformer. Et pourtant, il existe souvent un écart entre ce que nous confessons croire et la manière dont nous vivons concrètement. Parfois, c'est dû à de l'hypocrisie. Mais souvent, c'est autre chose. C'est que j'aimerais vraiment, vraiment vivre ce que je prêche. Et j'observe qu'il y a des places où je me suis peut-être relâché parce que je n'arrive pas à le vivre. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble à travers le cours. Au point 2, vous avez tout ça dans les notes, soit dit en passant. Le problème central, la dichotomie dangereuse. Je trouve ça intéressant. On va mettre des mots parce qu'après ça, on va s'y référer ensemble. Puis ça nous, les mots nous aident à s'examiner. Il y a deux types de théologie. La théologie confessionnelle et la théologie fonctionnelle. Hein, à l'Église de l'Espoir, on a une confession de foi. Confession de foi, c'est quoi? C'est une synthèse, c'est un résumé de ce qu'on croit. Puis quand tu dis que tu es chrétien, bien, tu vas, pas dans le sens de confesser un péché, dans le sens que tu vas déclarer. Ta théologie confessionnelle, c'est ce que tu dis croire. C'est ce que tu dis publiquement. Lorsqu'un collègue de travail te dit « t'es chrétien », qu'est-ce que ça veut dire « t'es chrétien » Mais là, tu commences à déclarer ta confession de foi sur toutes sortes de sujets. Ah ouais, pourquoi la Bible plus que le Coran? Ta doctrine des Écritures commence à y passer, d'accord? Ah ouais, toi, t'appelles ça péché, admettons. Et aujourd'hui, on est dans Romains 1, versets 18 à 32. On aborde des sujets pas mal délicats. Ah, t'appelles ça un péché, c'est terrible. Bon, mais c'est ta doctrine hein, du péché, de l'anthropologie aussi, de ce que c'est l'être humain. Donc ça, c'est notre théologie confessionnelle. Une grande partie de notre travail à l'Église, c'est de s'entraider, de s'instruire pour avoir une bonne théologie confessionnelle. Lorsque je dis ce que je crois, ça colle avec les Écritures. Ça vient de la Bible. C'est vrai, c'est conforme à ce que la Bible nous dit, parce que la Bible est la vérité, est la parole de Dieu. Donc, une grande partie de ce qu'on fait, c'est qu'on veut meubler notre compréhension, puis on veut dire, regarde, je comprends. Si je te dis, là, je le dis souvent lorsqu'on aborde la question de la théologie systématique, la Bible, ce n'est pas une encyclopédie. Donc, je ne peux pas, tu sais, si je te dis, OK, donne-moi une définition du péché. Où tu vas dans la Bible pour donner une définition du péché? Moi, je vais partout. De la première page à la dernière pour donner... Maintenant, je vais avoir des versets en particulier, mais vous comprenez? Ou Dieu, donne-moi une définition. La Bible n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un dictionnaire où je peux aller à telle page, puis là, j'ai une définition. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on enseigne les Écritures? On veut s'assurer qu'en respectant le fait que Dieu s'est révélé comme ça, à travers tous ses livres, 66 livres, avec autant d'années de rédaction, on veut respecter le fait que Dieu s'est révélé progressivement sans que ce soit une encyclopédie. Et là, on meuble notre pensée, puis on commence à dire, « OK, je comprends mieux la Trinité, je comprends mieux l'Église, je comprends mieux le mariage, je comprends mieux... un petit peu mieux, la fin des temps. Vous voyez? Et ça, c'est ta théologie confessionnelle. Une grande partie de tout ce qu'on fait, c'est construire ça. Ça me protège contre la fausse doctrine. Quand j'entends des choses dans le monde, quand je parle avec des gens, quand il y a un livre qui sort, quand il y a une tendance sur les médias sociaux par un prédicateur qui part sur un truc, si j'ai une bonne théologie confessionnelle, je suis en train de développer mon discernement. Là, je suis capable de dire, oh, il y a des petites lumières qui s'allument. Puis je dis, non, il y a un bug ici, il y a quelque chose. Je n'ai pas tout compris encore, mais il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est ta théologie confessionnelle. Moi, je dis, et c'est mon expérience depuis plusieurs années comme pasteur, si tu lis ta Bible au complet chaque année, si tu assistes à une église où on prêche la parole par exposition, si tu prends un cours par-ci, par-là, ta théologie confessionnelle va être pas mal solide. Tu n'auras peut-être pas tous les mots qu'un théologien va posséder, mais ton discernement de la saine doctrine va être pas mal aiguisé. Pas mal aiguisé. Généralement, il va y avoir des petits radars qui vont s'allumer lorsque tu vas entendre quelque chose qui cloche, qui ne concorde pas avec les Écritures. Des fois, tu ne sais pas d'où ça vient, c'est quoi exactement, mais tu dis, il me semble que ça ne marche pas. Théologie confessionnelle. Deuxième théologie, la théologie fonctionnelle. Bien, c'est ce qui dirige réellement mes choix, mes réactions, mes priorités, mes désirs. On peut le dire très simplement, si je croyais toujours que Dieu est la source parfaite de mon bonheur, je ne prendrais jamais des décisions qui m'éloignent de Dieu ou de sa volonté. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si ma théologie fonctionnelle, parce que moi, personnellement, intellectuellement, là, je suis absolument convaincu que Dieu est la source du bonheur, que marcher dans ses voies, respecter sa parole, c'est la garantie du bonheur, même dans les malheurs de la vie. Je suis convaincu de ça. Mais je ne fais pas toujours des choix conséquents à ça. Ça, c'est ma théologie fonctionnelle. Il y a plein de bénéfices à y porter attention. Parce que je peux grandir, parce que je peux être humble des fois lorsque des gens viennent me voir et ils me disent « Yannick, tu m'as fait du mal. » Tu sais, ben je sais que je suis incohérent. Et il n'y a à peu près rien de pire, admettons, qu'un parent ou un pasteur ou quelqu'un qui est en autorité, qui n'est pas prêt à reconnaître qu'il y a souvent une distance, un écart entre sa théologie confessionnelle et sa théologie fonctionnelle. Ça, c'est terrible. Ça sème un paquet de doutes sur la puissance de l'Évangile. Il vaut mieux pour moi dire, écoute, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas été à la hauteur de ce que je prêche. Et j'ai toutes les ressources pour faire ça en allant dans l'Évangile. Le véritable test de ce que je crois n'est pas ce que je dis, mais la manière dont je vis. Dans mon intimité, dans mon rapport aux choses, dans mon rapport aux journées, dans mon foyer, hein, la maison, les gens avec lesquels on est le plus familier, c'est là qu'on est le plus vrai dans ce qu'on croit vraiment. Parce que la familiarité enlève les bonnes manières. Le dimanche, moi, si je vous dis que je suis colérique, la majorité d'entre vous, vous n'arriverez pas à associer ces deux choses-là ensemble. Ceux qui me connaissent depuis 30 ans, peut-être. Mais vraiment, je vous dis, je suis colérique. Quand je dis colérique, ce n'est pas que je vais péter un plomb. C'est que la colère est un moteur très, très, très puissant en moi. Pour le bien et pour le mal. Donc, tu sais, la moutarde qui te monte au nez, là, c'est juste que je suis... Dieu m'a donné énormément de résilience, fait que généralement, je le garde en dedans. Mais ceux qui travaillent avec moi depuis longtemps, c'est pas long, là. Ils le voient juste dans mes yeux, là. Il y a deux fils qui se sont touchés, puis là, j'ai plus la même sagesse qu'il y a deux secondes. C'est ma réalité. La véritable thèse de ce que je crois, ce n'est pas ce que je dis, c'est la manière dont je vis. Mes réactions, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes attitudes, mes paroles. Les vérités que nous croyons réellement sont celles que nous vivons. Une vérité non vécue est une vérité non réellement crue. Et c'est là qu'on va avoir tout le défi pendant tout l'atelier. C'est que Dieu va nous confronter aux choses qu'on ne croit pas vraiment. On les comprend, on pense que c'est la vérité, mais dans le fond, on n'y croit pas à 100%. Autrement, on serait conséquent, puis on avancerait. Ou on est carrément hypocrite. Pourquoi est-ce que cette dichotomie-là est dangereuse? J'ai déjà commencé à aborder cette question-là. La Bible présente cet écart comme un problème sérieux. Premièrement, il déshonore Dieu. Parce que Dieu est la définition même de l'intégrité. Et Dieu a pourvu l'Évangile parce qu'il savait qu'on est absolument incapable par nous-mêmes d'être intègre. On est fondamentalement brisé. Donc, cette capacité-là d'une véritable intégrité, oubliez ça, c'est un combat, c'est une poursuite qu'on fait. Et heureusement, on a l'Évangile pour aller confesser notre manque d'intégrité et retrouver la joie dans la grâce de Dieu puis la motivation pour se relever. Premièrement, ça déshonore Dieu. Deuxièmement, ça affaiblit la vie spirituelle. De quelle manière? De quelle manière est-ce que cette incongruité-là peut affaiblir la vie spirituelle? Vous avez une idée? Quelqu'un qui a une idée? Comment ça affaiblit ma vie spirituelle? On attriste l'Esprit de Dieu. Si je veux marcher par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en moi, ça me demande de poursuivre constamment cette intégrité-là. Ça ne me demande pas la perfection, hein? Pour être rempli de l'Esprit, je n'ai pas besoin d'être parfait. Mais j'ai besoin d'être honnête dans mes écarts entre ma théologie confessionnelle et ma théologie fonctionnelle. Donc, ça attriste. Voici un exemple. Ça affaiblit ma vie spirituelle. Ça endommage les relations. Évidemment, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça normalise l'incohérence. On est tous tolérants envers certains péchés chez les gens autour de nous. Puis dans un sens, je veux dire ceci, dans un sens, l'Évangile me le commande. Si mon épouse me répétait chaque fois ce qu'elle a confronté chez moi, déjà 100 fois, dans nos plus de 30 années de mariage. Ce serait insupportable. Et donc, si Esther sait que je suis conscient de ce combat-là dans ma vie, que je demande au Seigneur de me transformer, elle va user de grâce envers moi, puis elle ne va pas... Encore. S'il vous plaît, je ne sais pas comment le Seigneur fait pour patienter avec toi. Moi, c'est difficile. Mais non. Et donc, il y a un moment où tu dis, bien, j'ai confronté, j'ai parlé, tu sais, il le reconnaît, il travaille là-dessus. On s'en reparle de temps en temps, je prie pour lui. Surtout si je vois qu'il est attristé, qu'il est affecté, qu'il revient puis qu'il me demande pardon. Waouh, qu'est-ce que je peux demander de plus? Mais veux pas, ça installe une espèce de zone de tolérance qui est là. Et si je ne prends pas le temps de confesser, de dire, là, confesser mon péché, pas confesser ma théologie, mais confesser mon péché, si je ne prends pas le temps de dire, regardez, je suis incohérent, regarde, je sais, je me suis irrité. Tu as raison, j'étais irrité. Le ton, la parole, la manière que c'est sorti, tu as bien senti, j'avais de l'inquiétude. Pas plus tard que tantôt, j'ai posé une question à Esther. Puis elle dit, Yannick, je sens l'inquiétude. Je ne l'avais pas remarqué, honnêtement. Je ne l'avais pas remarqué du tout. Elle me l'a dit, ah, c'est vrai. Ça, c'est ma bête noire, l'inquiétude. C'est la bête noire de bien des gens, là, mais ça, c'est la mienne en tout cas. Donc, ça normalise l'incohérence si je ne prends pas le temps de reconnaître mes écarts. Si je prends le temps de les reconnaître, déjà, au moins je reconnais. Je suis en train de travailler sur ça. Ça donne à l'ennemi un terrain d'action dans nos vies. Quand je ne prends pas le temps de reconnaître ces incohérences-là, je donne du territoire au diable. Parce que le diable, tu lui donnes un pouce, puis il prend un pied. Hein? Tu lui donnes un centimètre, il va prendre un mètre. Jusqu'à temps que tu sois complètement engourdi, complètement endormi. Je me souviens d'un frère qui était sombré dans l'amertume, profondément. Puis lorsque je lui parlais, j'allais le voir, puis je disais, je suis là, je suis disponible. On peut aller prier ensemble. Puis il me disait, Yannick, je suis comme un païen. Je suis comme un non-chrétien dans mon cœur. Je viens à l'église, là, mais je te dis toutes mes passions. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'il avait donné un pouce, puis un pied, puis finalement, il était mort en dedans. Pourtant, il était chrétien. Il s'est repenti éventuellement. Il marche par l'esprit. Mais pendant plusieurs années dans sa vie, il avait donné ce terrain-là. Il y avait une incohérence entre ce qu'il professait, d'autant plus que c'est quelqu'un qui professe et qui enseigne. Avec le temps, il est possible de s'habituer à cet écart entre la foi et la vie au point où il ne nous dérange plus. Et je vous dirais que c'est ça que le diable veut. Je veux dire, le diable a marqué des points extraordinaires lorsque ton incohérence ne te dérange plus, les autres le perçoivent, puis là, tu annonces l'Évangile. Le pire, c'est que Dieu sauve quand même à travers des gens qui font ça. En fait, j'ai connu des gens qui ont dit qu'ils étaient chrétiens. Finalement, ils se sont avérés non chrétiens, mais ils continuent à annoncer l'Évangile. Puis Dieu sauve. Ça, c'est l'ironie de la grâce de Dieu. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais vous comprenez le dommage que ça fait lorsque moi, je me suis habitué à cet écart-là et puis je le vis devant les gens autour de moi. Puis je suis plus réceptif à me repentir. Écoutez, c'est très probable que vous avez déjà deux ou trois trucs qui vous trottent en tête puis vous dites, je ne sais pas si je vais revenir la semaine prochaine. C'est très probable. Très probable. Ce serait normal. On va aller voir ensemble deux exemples concrets dans les Écritures qui sont frappants. Jonas, qui était quand même un homme de Dieu. Je veux dire, c'était un homme de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Vous faites avec moi dans Jonas 1:9. Jonas déclare ceci. Il dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » C'est vrai ce qu'il dit. Mais en même temps, c'est faux. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Je regarde vos visages. Je présume que tout le monde à peu près connaît l'histoire de Jonas. Mais Dieu avait commandé à Jonas d'aller avertir les Ninivites qu'un jugement s'en venait. Là, Jonas s'est dit, « Ah, mais je les haïs, ceux-là. Je ne vais pas aller leur dire de se repentir. Puis je te connais, Dieu, tu es gracieux. » Tu ne vas pas m'envoyer vers eux. Je me réjouissais que tu les frappes. » J'ai vécu des sentiments un peu similaires cette semaine quand j'ai dit, « OK, finalement, la révolte a été étouffée en Iran. » On ne sait pas, là, 10 000, 20 000 morts, des arrestations. Encore une fois, ils ont essayé de se débarrasser de ce régime de criminels, de meurtriers, de persécuteurs, de despotes. Je dis, OK, la communauté internationale ne fait rien encore une fois. Jonas, il dit, « Je te connais, t'es gracieux. Si je vais les avertir, ils pourraient se repentir. Tu leur ferais grâce. Moi, je me réjouis que tu les frappes. Et donc là, il est en fuite, il fuit Dieu. Puis là, il fait cette déclaration-là à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Bien, la vérité, c'est parce qu'il ne craint pas Dieu. À ce moment-là, il ne craint pas Dieu. Si vraiment il craignait Dieu, il ferait la volonté de Dieu. Parce que craindre Dieu dans les Écritures, ce n'est pas simplement « Dieu est fort ». C'est dans mon cœur, j'ai un respect profond pour la personne de Dieu. La chose la plus importante pour moi, c'est de l'honorer. C'est ça la crainte de Dieu. À celui qui connaît Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. Jonas déclare, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel. » Sa confession de foi est théologiquement juste, mais sa vie raconte une autre histoire. Vous voyez? C'est évident, on le voit. Il fuit l'appel de Dieu. Il choisit consciemment la désobéissance. Le problème de Jonas, ce n'est pas doctrinal, mais il est relationnel et moral. Il haït des gens plus qu'il ne craint Dieu, au point de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce, et lui, il dit, « Non, moi, je n'ai pas d'amour pour ces gens-là. Donc, je ne veux pas que toi, tu aies de grâce pour eux. » Dieu ne cherche pas seulement une identité religieuse ou culturelle, mais l'allégeance de notre cœur. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu désire. La vraie foi conduit toujours à une soumission volontaire et à une obéissance joyeuse. Et ce qu'on va voir ensemble à travers tout l'atelier, c'est quand je suis confronté au fait que je vois dans mon cœur le désir de me comporter comme Jonas, mais je vais plutôt aller livrer un combat dans la prière. Puis dire, « Seigneur, tout en moi me dit de ne pas faire ta volonté. » C'est tout ce que Jonas avait à faire. Au lieu de fuir, il devait aller dans la prière et dire, « Écoute, je suis un prophète indigne, j'ai aucun désir de faire ta volonté. » C'est tout ce qu'il y avait à faire. Un autre exemple avec Pierre, parce qu'on va aller dans le Nouveau Testament. Pourquoi aller dans le Nouveau Testament? Ben là, on dit, « Ah, Nouveau Testament, nous autres, on a le Saint-Esprit. Hein? » Ouais, une doctrine juste, une pratique incohérente. Tournez avec moi dans Galates 2, les versets 11 à 14. Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Céphas, qui est Pierre, donc c'est Paul qui est en train d'écrire dans sa lettre aux Galates et qui relate un événement qu'il a vécu avec Pierre. Mais lorsque Céphas, entendez Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, avec les non-juifs convertis au christianisme. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des Juifs devenus chrétiens, qui auraient dit, « Ah oui, Pierre, mange avec ceux qui n'ont pas choisi de se faire circoncire comme nous. » Alors que l'Église avait déjà statué sur la question. C'est-à-dire que les païens, les non-Juifs qui se convertissaient, n'avaient pas à être circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Hey, c'est des paroles dures envers un apôtre. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens, en voulant dire tu manges avec les païens, et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, Pierre se tient avec les non-juifs tant qu'il n'y a pas de témoins. Est-ce qu'on fait ça, nous, des fois? On a un comportement au travail, un comportement avec les chrétiens. Avec les chrétiens, on est plus chrétien, puis avec les non-chrétiens, on est un peu moins chrétien. Dans mon cœur, je le suis encore, mais dans mes comportements, tu sais, une des places où je le sens en moi, là, où je le vois des fois, là, c'est dans mon langage. Il y a des choses, il y a des mots auxquels j'ai entièrement renoncé. Je ne parle pas de blasphème, là. Je ne parle pas je parle pas des sacs québécois, là. Mais des fois, si je me tiens avec des non-chrétiens assez longtemps, j'ajuste un peu mon langage. Il est un peu moins chaste, mon langage. C'est comme si, excusez l'expression là en anglais, « I blend in », je me mélange. Je me mélange un peu, puis là, je dis « Oh, intéressant. » Pas intéressant, là, mais vous comprenez? Mais c'est une des manières. Donc, est-ce qu'avec les non-chrétiens, tu es un peu moins chrétien? Qu'avec les chrétiens, tu es un peu plus spirituel. Mais on comprend, hein, il y a une sensibilité à voir. Je ne vais pas sortir tout mon jargon évangélique quand je parle avec des non-chrétiens, puis ils vont être comme, « Ouf, vous êtes vraiment space, les chrétiens. » Non, je vais être compréhensible, je vais parler un langage qu'ils peuvent comprendre. Sous la pression, Pierre se retire dans sa communion avec les non-juifs, et il agit par crainte des hommes. Paul affirme que sa conduite n'était pas en accord avec la vérité de l'Évangile. Donc, Pierre avait un écart entre sa théologie confessée, confessionnelle, et sa théologie fonctionnelle. Le problème de Pierre, ce n'est pas un manque de connaissances, on s'entend? Je veux dire, il a présidé avec Jacques au moment où, au Concile de Jérusalem, il a été décidé que les non-juifs n'auraient pas à se faire circoncire. Ce n'est pas le manque de connaissances, le problème de Pierre. C'est un problème de cœur. La crainte des hommes peut parfois avoir plus d'influence sur nos actions que la vérité que nous connaissons. À quoi sert la doctrine biblique? Mais est-ce que la doctrine sert à nous informer ou à nous transformer? Dans un sens réel, les deux. C'est une des particularités du christianisme. Il y a des religions sur la terre qui ne passent pas par la connaissance, qui passent par une expérience. Des fois, j'ai de la difficulté avec certains mouvements chrétiens qui mettent beaucoup plus d'accent sur une expérience que la connaissance. Mais il y a des religions qui sont construites sur une expérience mystique. C'est des religions à mystère. Et tu vas vivre quelque chose, tu vas rencontrer l'être suprême ou je ne sais pas trop. Sans nécessairement avoir des mots pour le dire, le christianisme est complètement à l'opposé de ça. Dieu se révèle de manière intelligible. Donc, Dieu se rend compréhensible à notre intelligence, puis vient bouleverser notre compréhension des choses. Ça vient transformer nos désirs, nos affections, pour ensuite transformer nos comportements. Donc, la Bible est vraiment là pour nous informer, mais c'est juste le début du processus. C'est seulement le début du processus. Je sais que je prêche à la chorale, c'est l'introduction, les amis. Fait que je sais que je vous regarde, je sais que vous connaissez ces choses-là. C'est bon d'avoir des mots pour le dire, pour pouvoir l'enseigner lorsqu'on forme des disciples et pour s'examiner nous-mêmes. Et on va l'explorer davantage avec chacune des doctrines. La doctrine biblique n'a jamais été destinée uniquement à remplir notre intelligence, à produire des débats, à générer un simple assentiment intellectuel. Vous savez, une des choses qui personnellement m'attriste, c'est lorsque je vois des chrétiens qui jugent beaucoup le monde, mais qui intercèdent très, très peu pour le monde. Dieu nous a donné des yeux pour voir. Tu peux lire l'actualité, tu peux te tenir informé, tu peux échanger avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Tu peux même être offensé, je cherche le mot, scandalisé par des choses dans le monde. Mais si Dieu t'a donné un discernement qui vient des Écritures, qui fait que tu es scandalisé, c'est certainement pas pour que tu méprises et que tu te retires. C'est pour que tu pries et que tu t'engages. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc moi, des chrétiens qui s'informent très, très peu parce qu'ils disent « Ah, tu sais, moi, je suis juste dans la Bible », personnellement, je trouve que ça manque de sagesse. Non, informez-vous. informez-vous, on ne vit pas dans un monastère, on vit dans le monde, avec le monde. Je veux connaître l'actualité, je cherche à m'informer. Personnellement, je suis énormément à la géopolitique, je m'informe, j'essaie de comprendre les tendances dans la culture, dans la société, c'est important. Mais tout ceci, ce n'est pas pour que je me désengage puis que je dise « aïe, 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 merci Seigneur, je ne suis pas pécheur comme… » Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment pour m'engager. Et donc, la doctrine biblique n'a jamais été destinée uniquement à remplir notre intelligence, à produire des débats, à générer un simple assentiment intellectuel. Son but ultime, c'est la transformation personnelle radicale. Et ça, c'est le but de la doctrine tout autant que de l'Évangile. Et donc, si tu viens d'un milieu où on dit « Ah, la doctrine, c'est bon pour les enseignants, c'est bon pour… » Non, la doctrine, c'est bon pour tout le monde. C'est essentiel pour tout le monde. La doctrine, c'est simplement dire en une phrase ce que la Bible dit sur plein de sujets, puis après ça, comprendre tout ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Le mariage, je veux comprendre le mariage de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et là, je vais avoir une doctrine du mariage. Donc, c'est fondamental, c'est concret, là. On parle du mariage. La transformation personnelle radicale. Dieu ne cherche pas à faire de nous de meilleures versions de nous-mêmes, mais des personnes spirituellement différentes. Spirituellement différentes. Est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de vous endormir comme il faut. Ça va? Vous êtes très sage. J'exposerai pas vos péchés devant tout le monde, hein, si vous avez des questions. J'expose les miens, je vous laisse vous occuper des vôtres. C'est bon? La doctrine touche toute la vie. La doctrine biblique est appelée à transformer notre identité, la manière que je me vois. Tu sais, quand tu dis « Ah, je suis un », moi, je suis un. Ah oui? J'aimerais entendre ce que tu dis quand tu dis ça, pour savoir si tu dis ce que la Bible dit, si tu dis la vérité ou si tu dis des mensonges que tu crois. Notre identité, nos relations, notre manière de gérer l'argent, certains. Il y a de la place pour ça encore dans l'Église au Québec, je peux vous dire. Notre travail, notre repos. Tu vois, moi, c'est un domaine, le travail, le repos. J'imagine à quelque part que je cherche encore à m'accomplir à travers mon travail. Je ne travaillerai pas autant autrement. Notre travail, notre repos. Notre mariage, notre parentalité. Notre lecture du passé. Il y a des gens qui vivent complètement dans le passé pour les mauvaises raisons. Et il y a des gens qui ont juste tourné une page sur le passé sans l'avoir traité avec la parole de Dieu. Mais la doctrine traite de ton passé, là. Absolument. Notre interprétation du présent et notre vision de l'avenir. La doctrine n'est pas quelque chose que l'on connaît seulement, c'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose qu'on veut vivre. Puis je vais vous laisser avec des questions pratiques. Des petits devoirs personnels pour vous. Et la semaine prochaine, c'est moi qui enseigne la première leçon, donc on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Timothée 1 Timothée 3, 16-17. Vous connaissez peut-être par cœur. Tournez avec moi dans 1 Timothée. Je ne pense pas qu'on l'a d'affiché à l'écran. 2 Timothée, je m'excuse. C'est moi qui est dans l'erreur. Merci. De Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. On a probablement les deux plus beaux versets là, pour comprendre cette notion-là. Cette idée d'instruire dans la justice, quand vous lisez les proverbes, il est souvent question du juste. Dans la Bible, il y a deux notions de justice. Le mot justice est utilisé différemment. Et donc, on est justifié, déclaré juste par Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais on est appelé à marcher comme des justes, des gens qui marchent selon la justice. Et donc, le juste du livre des Proverbes est celui qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Maintenant, Paul va nous dire dans Romains, hein, on commence Romains, qu'on est tous injustes, d'accord? Et qu'on a besoin d'être justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est ça la justice de Dieu. Mais il veut produire en nous une justice nouvelle. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour comprendre, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli dans le sens de maturité. La parole de Dieu agit selon un processus très, très clair. Et j'aimerais ça que vous puissiez retenir ces éléments-là. Je suis à la page 5 dans mes notes. L'enseignement, la répréhension, nous reprendre, la correction, nous réaligner, la formation et l'entraînement. Et c'est ça qu'on va examiner à travers tout l'atelier. Il y a des doctrines où j'ai pas suivi tout ce processus-là. Cette doctrine-là n'a pas produit tout cet effet-là en moi encore. Enseignement, Dieu établit le standard de ce qui est vrai et juste. Autant sur le plan de qui il est que qu'est-ce que la bonne chose à faire, d'accord? Répréhension, la parole révèle ce qui ne correspond pas à ce standard dans notre vie. Dieu nous reprend, Dieu nous confronte. C'est pour ça qu'on veut lire les Écritures, si Dieu le permet, tous les jours. On y retourne. Je veux être enseigné, mais je veux être confronté par la parole de Dieu. Je veux être corrigé. Dieu agit pour réduire l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Entre ma théologie confessionnelle et ma théologie fonctionnelle. Dieu corrige. Dieu m'amène ailleurs. On avait un arbre sur le terrain, là où j'habite, en avant de chez nous. On lui avait mis un tuteur. Puis je le regardais, il était en train de forcer le tuteur complètement. Puis tout l'été, je me suis dit, OK, personne ne va le faire, il faut que je le fasse. Puis j'ai manqué de le faire. Puis on a eu des gros, gros, gros coups de vent. L'arbre est fini, là. Il a passé un seuil, c'est clair que les racines ont cassé. J'aurais dû simplement aller mettre le tuteur, aller corriger le tir plus tôt. Parce que là, il reste juste à l'abattre, cet arbre-là, au printemps. Il est fini. Mais la parole de Dieu est là pour corriger. Elle est là comme un tuteur, pas simplement pour nous confronter, mais vraiment pour nous corriger. Et ensuite, pour la formation et l'entraînement, Dieu nous apprend à vivre concrètement selon ce qu'il révèle. Et donc, une des choses qu'on va faire à travers l'atelier, c'est qu'on va prendre des doctrines qui, vous, lorsque vous lisez les Écritures, peut-être certaines doctrines, vous dites, c'est encore très théorique pour moi. C'est comme si j'ai l'impression que tout ce que Dieu fait lorsqu'il me parle de cette vérité-là, c'est qu'il me ramène à une pensée droite. Ah oui, c'est vrai, la Bible dit ça. Mais ça ne change rien dans mon quotidien. J'avais juste besoin de me rappeler c'est quoi la vérité. Ah oui, OK, check, je crois ça. Et vous ne voyez pas nécessairement en quoi cette doctrine-là a des implications concrètes dans vos affections, dans vos désirs, dans vos actions, dans vos paroles. C'est ce qu'on va faire à travers le cours. On veut aller développer le réflexe de voir les vérités de la Bible, parce qu'après, vous allez les revoir. Toutes ces doctrines-là, elles sont partout dans la Bible. Vous allez lire les Écritures, vous allez dire, « Ah oui, c'est vrai, ça a telle implication. » Et là, Dieu va vous reprendre. Donc, si ça ne vous tente pas d'être repris, revenez pas la semaine prochaine. D'accord? Autrement, je vous dis, les Écritures vont vous reprendre davantage à la fin de cet atelier-là. Parce que Dieu veut nous corriger avant que l'arbre soit cassé, d'accord? Et ensuite, Dieu veut nous former. Et c'est une des beautés de la Bible, de la manière que Dieu s'est fait connaître, comme tous les sujets importants de la Bible sont traités presque d'un couvert à l'autre de la Bible, ils sont traités sous toutes sortes d'angles différents qui font que telle doctrine, telle vérité, est évoqué souvent des milliers de fois dans la Bible, et en l'étudiant, en lisant, je vais pouvoir voir comment ça s'applique dans mon quotidien, ça. Qu'est-ce que ça a comme implication? Parce que Dieu va y revenir constamment, par exemple, avec Jonas, la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Bien, c'est pas dire que tu crains Dieu puis te pousser loin de lui. C'est pas ça, la crainte de Dieu. Et donc, je suis capable d'aller examiner, moi, dans mon cœur, est-ce que je vis la crainte de Dieu ou est-ce que je fuis sa volonté qui m'a fait connaître? Vous voyez? Donc, c'est une des beautés de la Bible. Dieu a décidé qu'il ne nous donnait pas une encyclopédie, mais qu'il nous racontait plein d'histoires à travers une histoire, à travers plein de vies, à travers la vie du peuple d'Israël, à travers la vie de l'Église. Et là, ces choses-là qui pourraient être purement théoriques reviennent tellement de fois dans les Écritures à travers des récits de vie, des illustrations, des proverbes, des prophéties, à travers Jésus lui-même, ses enseignements, ses paraboles, que là, tu finis par dire, OK, oui, il y a aussi une formation, il y a un entraînement pratique. Je suis capable de comprendre comment ça va s'appliquer dans ma vie. Et c'est ce qu'on va poursuivre à travers le cours. Je termine parce que je dois terminer. Vous avez des questions personnelles. Vous les avez tous dans les notes, d'accord? Je vous invite à prendre le temps cette semaine de réfléchir à ça. S'il y en a qui désirent se procurer le livre, le lire en anglais, c'est bon, vous pouvez le faire. On va couvrir l'essentiel de la matière quand même à travers le cours si vous préférez simplement travailler avec les notes. Est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je confesse une vérité biblique, mais où je vis comme si elle n'était pas vraie? La réponse est oui. OK, je vous dis tout de suite, vous pouvez marquer oui. Celle-là, je vous la donne. C'est un cadeau. Vous marquez oui à côté. Si vous marquez non, come on. Quelle vérité est facile à affirmer, mais difficile à vivre pour moi? Là, ça vous regarde. Ça vous regarde ou tu peux aller prendre un café avec un ami ou discuter avec quelqu'un qui est proche de toi. Est-ce que la crainte des hommes influence mes choix plus que l'Évangile? Où est-ce que je me suis habitué à un écart entre foi et vie? Où est-ce qu'il y a une tolérance qui s'est installée? Et le but là, de tout ça, ce n'est pas de vous faire sentir coupable. Hein? C'est vraiment pas ça, parce que ce n'est pas le but des Écritures. La culpabilité, c'est la portion répréhension. Mais on a dit, c'est quatre choses que Dieu veut faire. Il enseigne, il reprend, il corrige. Hein? Puis ensuite de ça, il nous amène dans un enseignement pratique. Qu'est-ce que cela révèle de ce que mon cœur désire réellement? On parle un peu de ça tout à l'heure dans le message dans Romains, des désirs, des aspirations, des passions. En résumé, le plus grand danger spirituel n'est pas de croire des fausses doctrines, mais de ne pas vivre les vraies. La foi biblique engage le cœur, pas seulement l'intelligence. Dieu nous enseigne non pour nous impressionner, mais pour nous transformer. Et c'est l'invitation qui vous est lancée ce matin, à revenir la semaine prochaine pour que ce qu'on confesse à l'espoir, ce qu'on confesse dans nos vies personnelles, dans nos maisons, qu'on le mette en pratique aussi. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est vraie, ta parole est puissante. Seigneur, moi le premier, j'ai des écarts dans ma vie. Tu m'y confrontes, Seigneur. Et c'est comme ça, Seigneur, que je me tiens devant toi humblement pour te demander de venir me transformer. Et je suis certain qu'en enseignant le cours moi-même, Seigneur, il y a de nouveaux éléments sur lesquels tu vas me confronter. Ma prière, c'est que la Bible soit moins théorique pour nous et plus pratique. Oui, Seigneur, qu'on puisse venir corriger des pensées qui ne sont pas bibliques, qu'on vienne corriger notre doctrine s'il y a lieu, mais aussi et surtout que cette doctrine-là, Seigneur, vienne transformer nos vies et que là où ce n'est pas réalisé, qu'on ait l'humilité de le confesser à un frère ou une sœur et lui demander de prier avec nous afin que tu puisses vraiment, Seigneur, nous transformer à l'image de Christ. Et c'est dans son précieux nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous inscrire, si vous n'êtes pas sur la liste à l'arrière, à prendre une copie des notes si vous voulez recevoir régulièrement l'information de semaine en semaine. Et ce cours-là va être disponible à l'audio et en vidéo sur...